C'est aujourd'hui que Donald Trump va désigner le futur gouverneur de la Banque centrale des États-Unis. Dominique Bayer, quel que soit le candidat retenu, il trouvera sur son bureau une énigme à résoudre. Comment faire remonter l'inflation?
D'ordinaire, le boulot d'un banquier central, c'est de mater l'inflation qui ressurgit quand la croissance revient. Mais depuis la crise de 2008, ou plutôt depuis que les États-Unis sont sortis de la crise grâce à l'intervention de la Fed, eh bien, rien ne se passe comme prévu. Le plein emploi est revenu, mais l'inflation demeure aux abonnés absents. D'après Janet Yellen, l'actuelle présidente de la Fed, eh bien, cette disparition, c'est un mystère.
Car selon la théorie économique, en période de plein emploi, les prix remontent.
Les patrons augmentent les salaires pour fidéliser leurs employés, pour en attirer de nouveaux. Ils répercutent ces augmentations sur le prix de leurs produits, des produits par ailleurs de plus en plus demandés par les salariés de mieux en mieux payés. La spirale vertueuse d'une inflation maîtrisée se mettent alors en place. Sauf que cette fois, ce n'est pas pareil. Les salaires américains n'augmentent pas, ou très peu. Plus précisément, seules les rémunérations des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée remontent, mais les salaires des temps partiels, des contrats courts, souvent dans des emplois peu qualifiés, font du surplace. On réalise que le lien emploi-inflation fonctionne bien quand les emplois sont bons.
Est-ce vraiment grave, Dominique, que les prix restent aussi bas?
Assez grave pour empêcher le grand argentier des États-Unis de dormir sur ses deux oreilles, car c'est sa mission de garantir la stabilité des prix. Mais comment y parvenir quand le principal levier, celui de la hausse des salaires, ne fonctionne plus? C'est une menace pour la reprise et au-delà pour la cohésion sociale, estiment certains analystes, car la dégradation de l'emploi, la stagnation des salaires qui l'accompagnent constitue un terreau fertile pour les populismes en tout genre. Vous voyez, le travail du président de la Fed peut avoir des répercussions bien au-delà des marchés boursiers.
Mais celui qui préside la Banque centrale des États-Unis est-il responsable de cet état de fait?
C'est vrai, il n'est pas vraiment responsable, ni lui, ni ses pairs, qui sont confrontés aux mêmes problèmes au Japon, en zone euro. Tout cela ne sont pas comptables de cette mutation du travail et de ses conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages. Ils ont quand même un petit caillou dans leurs chaussures, car en faisant marcher la planche à billets pour sauver les banques et toute l'économie, ils ont aggravé la situation. Les taux d'intérêt proches de zéro n'ont pas été mis à profit par les entreprises pour investir, comme ils l'espéraient, mais cet afflux d'argent bon marché a surtout encouragé les placements dans la pierre et les actions, deux secteurs où la formation de bulles pourrait bien provoquer une réplique du tsunami financier de 2008.
En bref, l'accusation de blanchiment portée contre la banque britannique HSBC se confirme dans l'affaire Gupta qui fragilise le président sud-africain.
Oui, dans un courrier adressé aux autorités financières de son pays, un parlementaire britannique né en Afrique du Sud dit avoir les preuves que la famille Gupta a utilisé la banque pour transférer des montagnes d'argent sale vers Dubaï et Hong Kong.
En France, Orange, l'opérateur historique du téléphone, se lance dans la banque mobile.
Sur ce marché ultra concurrentiel, le géant des télécoms a deux atouts, son vivier d'abonnés et une très belle expérience acquise en Afrique avec le succès du service Orange Money.
Et puis au Venezuela, le salaire minimum augmente de 30% aujourd'hui.
Alors ça ressemble à une bonne nouvelle.